débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Hervé Falciani a confirmé aujourd'hui qu'il ne se rendrait pas à son procès prévu lundi prochain. Cet ex-informaticien franco-italien de la banque HSBC accusé d'espionnage économique. Un espionnage qui, dans le même temps, a permis d'identifier plusieurs milliers d'évadés fiscaux. Ce qui nous amène à poser cette question ce soir. Est-ce que cet homme, et plus généralement tous ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, sont des héros ou des dangers? C'est notre débat pendant 20 minutes. Et pour en parler, nous accueillons deux invités en studio. Elodie Emery, vous êtes journaliste au service Société du journal Marianne et vous suivez précisément ce dossier des lanceurs d'alerte. Bonsoir.
Bonsoir.
Et William Bourdon, avocat au barreau de Paris, également auteur du livre intitulé « Petit manuel de désobéissance citoyenne ». Bonsoir.
Aux éditions Lattès. Bonsoir.
Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation des RFI. Je vais commencer avec vous, William Bourdon. Hein, vous êtes précisément l'avocat qui défend Hervé Falciani. Pourquoi, selon vous, cet homme accusé donc d'espionnage économique, ne doit pas être condamné?
Alors moi, j'ai jamais dit qu'il ne devait pas être condamné. Je ne vais pas me substituer au juge suisse. Je dis simplement ce que j'ai dit avec son avocat espagnol lorsqu'il a comparu devant l'Audiencia Nacional à Madrid il y a plus de 2 ans et demi, qui devait statuer sur la demande d'extradition présentée par les autorités suisses. Nous avons dit qu'il y avait quelque chose de très paradoxal à criminaliser une personne dont l'attitude, la prise de risque individuelle même, avait contribué à renflouer les caisses publiques d'un certain nombre d'États européens pour des montants absolument considérables, de l'ordre de milliards, et avait participé, c'est pas la seule raison, mais avait participé à la mise à jour d'un système d'évasion fiscale institutionnalisé et dont on peut penser qu'HSBC y a à bien des égards participé. En tous les cas, c'est la conviction des juges d'instruction français qui l'ont mis en examen avec une caution justement considérable d'1 milliard d'euros. J'ajoute que la loi espagnole réprime celui qui, ayant connaissance de faits de blanchiment dans un établissement bancaire, se tait, alors qu'à front renversé, la loi suisse réprime celui qui franchit le Rubicon et ne se tait pas. Donc, il y avait une distorsion entre les services que cet homme a rendus à l'intérêt général et l'hypercriminalisation dont il fait l'objet. Mais le dernier mot va appartenir au juge suisse. J'ai du mal à imaginer qu'il ne tienne pas compte d'une façon ou d'une autre de ce contexte très particulier. Voilà.
Et Elodie Emery, concernant les lanceurs d'alerte, que prévoit finalement la loi aujourd'hui?
Comme le disait William Bourdon, le problème c'est qu'elle est différente en fonction des pays. Mais en tout cas, pour répondre à la question un peu provoque de l'intitulé de votre débat, sont-ils des dangers ou pas
ou des héros?
Moi, je pense qu'ils sont ni l'un ni l'autre. En fait, et s'ils devaient être des dangers, c'est en tout cas certainement pas pour ceux dont on les accuse parfois, à savoir d'être des gens qui veulent tirer la couverture à eux, obtenir des compensations financières. Fantastique. Je pense pas que ce soit ça. En revanche, il y a sans doute un danger à ne pas considérer et pour la société à ne pas vraiment justement rétribuer ceux qui vont dévoiler en fait. C'est-à-dire que ces personnes qui se mettent quand même dans des situations mais extrêmement pénibles en mettant au jour ce qu'elles révèlent, si la société au bout d'un moment et la justice évidemment et la société par ailleurs ne rétribue pas et ne considère pas à sa juste valeur le risque pris, je pense que ça peut, et je ne suis pas la seule à penser, devenir un peu des bombes ambulantes,
si
ces personnes.
Même si c'est en enfreignant la loi?
Mais oui, même si c'est en enfreignant la loi, parce que il y a des justes causes, et ces personnes qui prennent des risques, qui sont placardisées, qui sont parfois menacées physiquement, au bout d'un moment, si on les décharge pas du poids de l'alerte, du poids de ce qu'elles portent pendant des années, elles finissent par devenir peut-être, par prendre le risque de devenir presque fanatique, de porter ce combat d'une manière quasiment fanatique.
Dans une société finalement où les inégalités persistent, on a plus que jamais besoin des lanceurs d'alerte, selon vous, William Bourdon?
Alors, je ne crois pas que l'irruption des lanceurs d'alerte, c'est ce que j'essaie de raconter dans mon livre, soit fondamentalement liée aux inégalités. Je crois que ça c'est lié à deux éléments. Je vais le dire vite. C'est la conviction qui s'est universalisée d'un nombre de citoyens de plus en plus grands qu'il existait des risques et des fléaux très lourds qui pesaient sur l'humanité, pour eux-mêmes et les futures générations. Et que face à ces fléaux, c'est la deuxième perception, les pouvoirs publics, les responsables privés et politiques manquaient à leurs promesses et manquaient à leurs obligations. Et que donc a jailli ce sentiment de co-responsabilité. Un lanceur d'alerte devient un citoyen devient un lanceur d'alerte parce qu'il est porté par ce que Vaclav Havel appelle une forme de petite insurrection individuelle, où tout d'un coup il va rebattre toutes les cartes et faire prévaloir l'intérêt général à l'intérêt particulier. Mais j'ajoute, pour répondre à ce qui vient d'être dit, que les lanceurs d'alerte sont des personnes qui, a priori, sont protégées et doivent être protégées par la loi. Et c'est parce que, à un moment donné, ils ont le sentiment de sonner l'alarme en désespoir de cause, qu'ils deviennent des désobéissants. Edward Snowden a désobéi, il est poursuivi par les autorités américaines. Et en même temps, il a lancé l'alerte. Mais sur le plan technique, c'est pas un lanceur d'alerte, puisqu'il a agi contre la loi américaine. Aujourd'hui, il est criminalisé, et pour une partie de l'opinion publique américaine, il reste un traître, mais pour une autre partie qui chaque jour gagne du terrain, il est un saint et peut-être qu'il sera nobilisable dans quelques années. Je termine pour dire qu'Antoine Deltour, que je défends, petit citoyen, discret, intelligent, charmant, qui tout d'un coup... Qui a révélé LuxLeaks, à la fois, nous allons le défendre devant le tribunal correctionnel du Luxembourg dans quelques mois, pour un certain nombre d'infractions, il risque 5 ans de prison, et il y a quelques jours... le Parlement européen lui a fait remettre par des députés de gauche et de droite, dans un œcuménisme parfait, la médaille du citoyen européen.
C'est tout le paradoxe aujourd'hui des autorités, finalement. Elles sont prises entre deux feux, finalement. Cette question, vous le citiez, Antoine Deltour, récompensé, mis en examen pour violation du secret professionnel. C'est un petit peu comme Hervé Falciani, qui a aidé la France à rapatrier plus d'un milliard d'euros, vous le disiez, et qui va être jugé à partir de lundi.
C'est d'abord, il y a une discordance entre les différents systèmes législatifs, comme on le disait il y a quelques instants, et puis il y a une discordance qui se réduit avec le temps. Une personne peut, un citoyen lanceur d'alerte peut être criminalisé, stipendié par son propre État, par une partie des citoyens, et avec le temps acquérir toutes les lettres de noblesse de celui qui, grâce au risque pris, va réveiller les consciences, mettre à jour des systèmes frauduleux, cachés par des secrets qui sont trop souvent instrumentalisés.
Élodie Emery, il y a des limites au lanceur d'alerte, il ne peut pas substituer un État, cela reste une personne.
Oui, bien sûr, ça reste une personne, mais je crois que ce qui est vraiment intéressant, et c'est quand William Bourdon évoque Antoine Deltour, personnage charmant, sympa, c'est pas des gens, en tout cas c'est difficile de faire un profil type évidemment, mais en tout cas moi ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est pas des gens qui se prennent pour des sauveurs de l'humanité et qui ont vocation vraiment à éveiller les consciences, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le profil, je trouve que ce qui revient souvent, c'est le bon élève en fait, c'est la personne qui a à cœur de faire son boulot vraiment correctement.
Snowden, Assange.
Oui, et puis les Français, et puis Stéphanie Gibaud qui est en Suisse, enfin qui a contribué à révéler le scandale de l'évasion fiscale UBS, Françoise Ploto qui a révélé un scandale de fausses factures dans les Hauts-de-Seine, et puis après il y a des gens dont on parle moins, un monsieur qui a témoigné anonymement pour moi qui s'appelle, enfin qui s'est fait appeler Abdel A, qui a révélé un scandale d'amiante chez Pizza Hut.
Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent être dangereux?
Mais en fait, sur le moment, le problème, c'est que c'est la réaction, en fait. Eux mettent au jour, simplement révèlent à leur supérieur hiérarchique un truc qui les a ébranlés, qui les a choqués dans leur conscience professionnelle. Et c'est la réaction, en fait, des gens en face d'eux qui leur dit « oui, non, mais ça, en fait, on va pas en parler », qui fait d'eux... tout d'un coup des gens qui vont devenir des lanceurs d'alerte progressivement, mais qui n'avaient pas du tout cette intention là au départ. Eux, au départ, Florence Ploto qui révèle son histoire de fausse facture dit qu'avec toute la bonne foi du monde elle va juste mais avertir sa hiérarchie qu'il y a un problème sur les signatures, et en fait c'est la réaction en face où on lui dit ça, en fait, il faut pas en parler, qui fait qu'il se retrouve dans un combat personnel et qui devient en fait un combat pour la société dans son ensemble.
C'est pour ça qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent que ça s'improvise pas. C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui ont des démarches extrêmement spontanées et immédiates, et que s'ils avaient anticipé les risques, certains m'ont dit on se serait pas venu.
Mais bien sûr. Hein,
on se serait abstenu.
Ben oui.
Donc c'est important que si on a le sentiment au sein de son entreprise, de son administration, qu'il y a très grave dysfonctionnement et qu'on veut le révéler, d'abord se renseigner sur les outils juridiques, parce qu'aujourd'hui ils existent en France. C'est la loi du 6 décembre 2013, mais elle est tout à fait insuffisante. Il y a un système législatif en France qui est beaucoup trop disséminé et fragmenté. Et pour l'instant, en gros, ce que dit la loi, c'est que...
Il y a une commission qui, selon la loi du 16 avril 2013, qui doit permettre de faire remonter une alerte.
J'allais venir. Ça, c'est la loi qui est une des 6 lois qui protège les lanceurs d'alerte dans le secteur sanitaire et environnemental. Donc, ces lois, en gros, pour dire les choses vite, érigent une forme de bouclier, c'est-à-dire, a priori, interdisent ou rendent très compliqué le fait pour l'employeur, que ça soit dans le secteur privé ou public, d'exercer des représailles par rapport à une révélation. Mais on sait très bien que la crise économique et le cynisme de certains employeurs ne le dissuadent pas du tout d'exercer ces représailles. Et deux, c'est supposé organisé, mais on est très en retard. La CNIL a souligné à quel point les canaux de diffusion de l'alerte, tels que les avait prévus la première loi protectrice des lanceurs d'alerte, qui était la loi de novembre 2007 sur la corruption, ne fonctionnent pas. Il y en a très peu qui ont été mis en place. Et c'est pour ça que, quand même, globalement, c'est une prise de risque. Donc je trouve irresponsable moi, d'encourager les gens à devenir des lanceurs d'alerte s'ils ne prennent pas soin. Un, d'aller se renseigner auprès d'associations, d'avocats spécialisés, de syndicats, voire de se blottir dans le secret des sources que proposent parfois les journalistes. Ça ne s'improvise pas. Il faut être assez costaud, il faut être assez solide, et il faut anticiper sur les obstacles. On est dans une période de crise économique, il y a un taux de chômage gigantesque, donc il faut y regarder à deux fois avant de se lancer dans cette belle aventure citoyenne.
Alors sur les dangers justement du lanceur d'alerte, ce serait intéressant d'avoir votre avis, Élodie Emery, parce que vous avez recueilli à Marianne des témoignages intéressants. Alors en France, il faut savoir que la loi du 22 novembre 2007 interdit de licencier un salarié qui aurait dénoncé les pratiques illicites de son employeur. Ça n'a pas toujours été le cas. Certaines personnes, on l'a vu dans la presse, ont pu être licenciées après avoir dénoncé les dérives de leur entreprise.
Moi, c'est pas compliqué. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, sauf celles qui travaillaient dans la fonction publique, sont au chômage. Stéphanie Gibault, ça fait des années, c'est donc la personne du BS, survit grâce au RSA, exclusivement. Donc, toutes ont fini par être licenciées d'une manière ou d'une autre, sous d'autres motifs, évidemment. Mais c'est là, la protection, pour le coup, est inexistante.
Et quelles conséquences sur l'entreprise, les révélations qu'ont pu faire les personnes que vous avez rencontrées? Est-ce qu'elles ont pu mettre en péril leur entreprise d'une certaine manière? Parce que ça peut révéler être un danger.
Pour le coup, pour UBS, ils sont poursuivis. Oui, bien sûr. Pour le cas d'Antoine Deltour, je crois qu'il y a quand même une commission parlementaire au niveau européen.
Une commission parlementaire. Ça déclenche Juncker évidemment. Est obligé de prendre position. Et Nicolas Forissier et Stéphanie Gibault que j'ai défendu Stéphanie devant le Conseil des prud'hommes. On a gagné d'ailleurs pour harcèlement. Vous avez raison de souligner la situation d'extrême précarité dans laquelle elle se trouve. Aux États-Unis, et les enquêtes qui ont été faites ces dernières années qui développe, ça c'est très américain, le syndrome traumatique post-lanceur d'alerte, qui commence à réunir des psychologues, des psychiatres, pour évaluer les pathologies spécifiques qu'endurent ceux qui, franchissant le Rubicon, se retrouvent broyés par des logiques de représailles qui peuvent être extrêmement violentes. Donc, c'est possible. On est dans une période où de prologue. C'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ça envahit tout le vocabulaire, y compris parfois avec des manipulations sémantiques absolument scandaleuses. Tout le monde ne peut pas s'improviser lanceur d'alerte. Et moi, je considère que la loi française, c'est ça qui est important, n'est pas suffisamment protectrice des lanceurs d'alerte. Il devrait y avoir, comme ça existe au Canada ou en Angleterre. En Angleterre, quand même, notez que entre 2012 et 2013, il y a eu une augmentation de 77% des alertes dans le secteur financier. Et une enquête a révélé que 4 scandales financiers sur 5 en Europe provenaient des lanceurs d'alerte. Parce que la loi est plus protectrice en Grande-Bretagne, et parce qu'ils ont un endroit où ils peuvent se blottir, une autorité administrative, où confidentiellement ils peuvent dialoguer dans une certaine sécurité. C'est pas encore le cas en France.
Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être pour la bonne cause, mais est-ce qu'aujourd'hui, un lanceur d'alerte peut finalement provoquer un effondrement mondial?
Je n'irai pas jusque-là.
Quand on voit Edward Snowden qui vit réfugié.
Je n'irai pas jusque-là, mais bon, pensez au séisme gigantesque qu'a provoqué les révélations d'Edward Snowden quand il est arrivé à Hong Kong. C'est-à-dire un seul bonhomme qui était fonctionnaire d'une filiale de la NSA, dont le père est un garde-côte, ça rejoint ce que vous disiez, Elodie, structuré par des valeurs, des grands principes d'attachement à l'excellence professionnelle, mais d'attachement aussi aux grands principes de la démocratie et de l'état de droit, par ces révélations, va dessiller les yeux de 50 chefs d'État, des trois quarts de l'humanité, sur un système de surveillance massive qu'on pouvait imaginer, mais dont personne ne pouvait soupçonner qu'il soit aussi universalisé, aussi sophistiqué, et ce, y compris jusqu'au portable d'Angela Merkel.
Alors, vous dites que finalement, lanceur d'alerte, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais cette forme de désobéissance nouvelle existe depuis longtemps. Si on pense à, je sais pas, Gandhi, Martin Luther King, c'était finalement des lanceurs d'alerte en leur temps, Élodie Emery?
Oh là là, j'en sais rien. Je sais pas si c'est plus que, sans doute, Gandhi, je pense qu'on peut dire que c'est plus qu'un lanceur, lanceur d'alerte.
C'est un très grand désobéissant, avant même un lanceur d'alerte. C'est un très grand désobéissant.
C'est une forme de lanceur d'alerte.
Non, mais je crois, pardon, excuse-moi, Elodie, mais je crois qu'il faut pas, Pardon, je prends le relais, mais il faut quand même faire la distinction très importante entre ce dont on parle, qui est une démarche individuelle, personnelle, parfois confidentielle, et ces grands mouvements citoyens collectifs du 19e
siècle. Mais qui partaient aussi d'une personne.
Qui part d'un tronc commun, qui est une forme d'indignation, et d'une indignation qui vous soulève, qui soulève votre conscience, et puis ces grands personnages iconiques qui ont traversé le 19e et le 20e siècle, et qui, sur leur intuition et leur courage, ont fédéré des mouvements de désobéissance civile, qui ont provoqué la fin de l'apartheid, qui ont provoqué la décolonisation de l'Inde dans les conditions qu'on sait, et qui ont provoqué les lois de 1964 restaurant un minimum de droits civiques pour les Afro-Américains.
Elodie Emery, est-ce que finalement les lanceurs d'alerte, c'est effectivement lié à la société d'aujourd'hui ?
Mais oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que les lanceurs d'alerte que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je vous évoquais tout à l'heure, ceux dont on parle pas beaucoup, c'est-à-dire que évoquer Gandhi, c'est tout de suite faire une comparaison qui est très très inhibante pour des personnes qui juste remarquent quelque chose dans leur quotidien et dans le fonctionnement de l'entreprise
c'est pour montrer jusqu'où peut-être aujourd'hui le lanceur d'alerte peut aller.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas nécessairement de dimension héroïque au départ, et c'est hyper important en fait que ces personnes qui vont mettre au jour quelque chose qui peut paraître au départ pas aussi énorme que ça. En fait, Stéphanie Gibaud, au départ, elle n'a pas eu le sentiment. On lui a juste demandé d'effacer, de détruire des fichiers. Elle s'est dit, c'est 10 ans de boulot, ça m'ennuie un peu de détruire 10 ans de boulot. Et c'est au fur et à mesure, en fait, qu'elle se rend compte qu'elle est en train de. Elle ne se rendait pas compte du tout qu'elle était en train de mettre le doigt dans quelque chose d'aussi colossal. Mais donc, c'est pour ça que c'est important que même au départ, de pouvoir dire, en réalité, en étant assurer que ça n'aura pas de conséquences sur sa carrière, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que.
Est-ce que c'est une mission finalement? Chaque personne, chaque citoyen doit finalement être une.
Mais je pense que tout le monde
pouvoir être lanceur d'alerte.
Mais absolument, je pense que tout le monde peut être confronté dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, à des choses qui heurtent soit sa conscience professionnelle, soit effectivement sa conception. Là, pour employer des mots plus grands de la démocratie, je pense qu'effectivement c'est n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver dans la situation d'avoir quelque chose. Peut-être pas de devenir lanceur d'alerte, parce que ça, pour ça, il faut un engrenage, mais en tout cas, de mettre au jour et de révéler quelque chose qui ne va pas, qui...
Absolument, mais c'est vrai que potentiellement n'importe quel citoyen peut l'être, mais en même temps, très peu le seront. Parce que ça implique aussi un concours.
Est-ce que c'est plus nécessaire de l'être aujourd'hui, en tout cas?
Il y a ce sentiment, comme une forme d'injonction, qui est faite à un nombre de plus en plus grand de citoyens, qu'ils portent une responsabilité, de révéler des grands scandales dans le site. Que ce soit du côté sécuritaire, Snowden, ou du côté financier.
On a l'impression que c'est un peu le petit face au grand à chaque fois,
c'est
cette histoire de lanceur d'alerte.
Mais en même temps, puisqu'on est sur RFI, et moi j'étais en contact avec des lanceurs d'alerte potentiels dans différents pays africains, dans les pays européens, il commence à y avoir un certain nombre de boucliers et de protections pour les lanceurs d'alerte. Mais quelle difficulté! L'autre jour, j'ai eu un coup de téléphone d'un jeune banquier d'une banque en Afrique qui me disait, Bourdon, on me demande de cautionner une opération de blanchiment pour des dizaines de millions de dollars. Je veux le dénoncer. Qu'est-ce que je fais? Bon, à part lui envoyer un avion privé pour l'exfiltrer, lui et sa famille, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans un pays où, globalement, les avocats sont dans une situation de grande précarité, il n'y a pas de juge, les journalistes sont menacés. Je vais pas en dire plus, mais c'est vrai que il faut aussi imaginer que cette protection de lanceurs d'alerte, elle devra s'universaliser dans des pays du Sud, dans les pays émergents, où là, les dysfonctionnements dans le secteur privé et public sont d'une immense gravité et provoquent des dégâts très lourds sur la situation économique des gens et aussi sur les libertés publiques.
En deux mots, est-ce que les institutions sont prêtes à cela? Très rapidement.
On est, je répète, dans un prologue, dans un mouvement qui balbutie en ce début du 21e siècle. C'est une nouvelle figure qui s'installe dans le débat public, dans le débat universel. Voilà, il faut continuer à les accompagner, mais le chemin va être long.
Et les lanceurs d'alerte et la peur qu'ils créent. Merci beaucoup William Bourdon, avocat au barreau de Paris, également auteur du livre Petit manuel de désobéissance citoyenne. Merci beaucoup Elodie Emery, journaliste au service société du journal Marianne. Merci à vous d'avoir suivi ce débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet rfi.fr.
Appel sur l'actualité.